Moi, je prends le truc de Guzman au cachet oriental. Je refuse totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une diplomatie au cachet. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bon début de semaine en compagnie de Radio Capi et merci d'avoir choisi parole aux auditeurs. L'émission 100% interactive de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et de donner votre point de vue sur les grandes préoccupations de tous les jours. Ce lundi 26 juillet 2010, nous parlons santé avec vous et nous allons nous intéresser au fonctionnement des hôpitaux généraux de référence à travers le pays. Prenons l'exemple de la province du Kasaï occidental où l'hôpital général de référence de Mouchigny dans le territoire de Mouéka accueille quelques 30 patients par mois au lieu des 300 comme c'était le cas il y a de cela quelques années. Et d'après le médecin chef de zone de santé de Mouchigny que nous aurons dans cette émission, cette situation est provoquée par le fait que la structure n'est plus encore appuyé par Caritas Secours International et ces désengagements créent le dysfonctionnement de la structure et du coup les malades ne savent pas fréquenter l'hôpital par manque de médicaments. De l'autre côté, au Kasaï oriental, près de 300 agents de la zone de santé de Lusambo demeurent impayés après près de 20 ans de prestations de services. Ces agents très inquiets disent ne pas toucher des salaires malgré leur mécanisation. Ils ne peuvent se contenter que d'une prime et qui du reste est irrégulière et inconsistante. Beaucoup d'entre eux ont déserté leur poste, ce qui pose un véritable problème dans la prise en charge de malades. Les zones de santé et hôpitaux généraux de référence sont parfois en RDC. Vous en connaissez quelques-uns dans votre milieu et les fréquentez de temps en temps. Leur fonctionnement nous intéresse dans cette émission. Quel constat faites-vous des hôpitaux généraux dans votre milieu et que faire pour améliorer leur travail? Vos témoignages, réactions, points de vue et propositions sont les bienvenus. Nous aurons au téléphone Dr Jean-Baptiste Sondi, spécialiste en santé publique et ancien ministre de la Santé. Toute l'équipe est en place pour la production de cette émission. Christine Poutou qui est à la réalisation, assistée de Delia Mapinga, Nicole Ngakaï à la coordination et William Lungamba à la mise en œuvre. Piro et Amige à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Partant de deux exemples évoqués à l'introduction de cette émission au Kasaï occidental, où depuis que Caritas Secours International a cessé d'appuyer la zone de santé de Mouchigny dans le territoire de Mouéka, l'hôpital général sur place éprouve des difficultés pour fonctionner. Du coup, les malades ne savent fréquenter l'hôpital. Et à Lusambo, au Kasaï occidental, les agents de la zone de santé eux, n'ont pas touché de salaire depuis près de 20 ans, malgré leur mécanisation, et les voilà qui désertent de leur poste, et c'est là paralyse la prise en charge des malades. Quel constat faites-vous des hôpitaux généraux de référence dans votre milieu? Leur fonctionnement nous intéresse et que proposez-vous pour améliorer leur travail? Nous en parlons avec vous. Appelez-nous au 081-890-3315 et vous pouvez également réagir en nous envoyant un mail à pa@radiocapi.net. Notre invité est en ligne, Dr Jean-Baptiste Sondi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions ensemble avec les auditeurs parler du fonctionnement des hôpitaux généraux de référence. Vous venez de suivre l'introduction, juste les deux exemples pris à Mouchigny au Kasaï occidental, c'est dans les territoires de Mouéka, où depuis le départ de Caritas Secours International, l'hôpital n'a plus de moyens de fonctionnement, il y a les malades n'y fréquentent presque pas, et à Lusambo, ce sont les agents de la zone de santé qui sont mécanisés, qui n'ont pas des salaires, ils touchent des primes, une prime irrégulière, ils ont déserté, et là aussi, les hôpitaux ont des problèmes pour fonctionner. Vous êtes spécialiste en santé publique, ancien ministre de la Santé. Quand on voit ces tableaux, ces deux exemples, peut-être il y en a autant à travers le pays, quelle peut être votre réaction d'emblée quand on présente ces petits tableaux?
Bah, écoutez, moi je ne suis pas étonné du tout, hein. Donc ce sont des situations qui sont normales et vous constaterez effectivement que pratiquement la santé des Congolais est tributaire en fait de l'assistance extérieure. Comme l'hôpital de Mouéka, l'hôpital général, qui ne fonctionnait que grâce à l'aide de Secours International, vous prenez les grands programmes nationaux de lutte contre la maladie du sommeil, par exemple. C'est essentiellement soutenu par la coopération belge. Vous prenez tous les systèmes de vaccination sans un apport substantiel de la coopération internationale. L'État congolais n'est pas capable de lutter contre la maladie du sommeil, n'est pas capable d'assurer la vaccination de ses enfants, n'est pas capable d'organiser une zone de santé, n'est pas capable... Bon, nous sommes dans un état de délabrement qui date d'il y a longtemps et on ne sent aucun effort pour améliorer. Et c'est ce qui est d'autant plus surprenant que vous avez appris dans, par exemple, le programme des 5 chantiers, il est prévu de construire un certain nombre d'hôpitaux. Mais comment un pays normal, il se rend compte qu'il, aujourd'hui, il est incapable de faire fonctionner un seul hôpital, peut-il prendre l'option d'en construire d'autres? Comment peut-il nous convaincre que, incapable de faire fonctionner les hôpitaux qui existent, en construisant de nouveau, il va les faire fonctionner? Voilà. Et c'est là le véritable paradoxe que nous vivons.
Donc, docteur, quand on voit la situation, s'il faudrait peut-être, après les auditeurs, on pourra évoquer les raisons qui ont fait à ce qu'on en arrive, on arrive là. Vous dites que la situation dure d'il y a longtemps. Quand vous comparez à partir de quelle période la situation du secteur de la santé, ce qui concerne les hôpitaux, a commencé à se dégrader?
Disons que quand vous prenez, lorsque nous avions adopté le concept de soins de santé primaire comme stratégie pour atteindre l'objectif santé pour tous en 1981, on a assisté lors de la mise en œuvre effectivement la subdivision du pays en zones de santé et à un moment donné, pratiquement, on a commencé à voir que plus de 8, les années 87-88, beaucoup de zones de santé, jusqu'au même à 70% des zones de santé étaient fonctionnelles. Mais à partir des années 90, on a assisté à une décrépitude généralisée. Et d'ailleurs, nous-mêmes, lorsque nous allons prendre la responsabilité du ministère de la Santé, nous allons faire une aide à nos services extrêmement précise et on va faire des propositions pour, comme nous avons dit, la reprise des zones de santé. Donc, d'abord, la reprise du système médical doit commencer par une revitalisation, une redynamisation de la zone de santé dans son ensemble, c'est-à-dire la réhabilitation des centres de santé, la réhabilitation des physiques donc des fonctionnels des hôpitaux de référence, la prise en charge du personnel, le ravitaillement. Et nous avions prévu à ce moment-là qu'il fallait en moyenne injecter par an 3 millions de dollars pour revitaliser une zone de santé et que nous, comme nous n'avions pas d'argent, on avait prévu d'en prendre 60 zones de santé par an et après 5 ans, on pouvait atteindre les 306 de zones de santé de l'époque, et cela avait coûté au total plus d'un milliard 200 millions de dollars. Alors, malheureusement, aujourd'hui, vous savez, on ne s'occupe pas ni de la santé, ni du système éducatif, ni de la production. Donc, on est dans un cercle vicieux qui, aujourd'hui, même une certaine façon, vous savez, l'hôpital général de Kinshasa ne fonctionne pas bien, l'État ne s'en occupe pas. Moi, je ne connais pas un seul hôpital dont l'État congolais assure correctement le fonctionnement.
Ok, docteur, on vous garde en ligne. Il y a Kiombamba qui nous appelle Delicacy, Ange qui est en Bandaka. On va leur donner aussi la parole. Ce sont les auditeurs qui vont nous dire comment ça se passe chez eux et quelles sont aussi leurs propositions, parce que c'est un échange entre la population à travers par les auditeurs pour savoir tout ce qui nous touche, qu'est-ce que nous en pensons et qu'est-ce que nous proposons pour que nous puissions améliorer.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Kiombamba, vous êtes à l'ICACI au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de suivre ce que nous avons dit depuis le début de cette émission. Notre préoccupation, c'est le fonctionnement des hôpitaux de référence dans notre milieu. Et qu'est-ce que nous proposons pour que cela puisse nous rendre service? Quelle est la situation là où vous êtes à l'ICACI?
Merci beaucoup, monsieur Perrault. J'ai voulu palper la réalité. Je suis présentement à l'hôpital général de référence d'Akou. Je vais vous donner une petite analyse concernant les hôpitaux de référence ici chez nous à l'ICACI. Je vous dis que c'est dans un état de délabrement, en tout cas terrible. Vous savez pourquoi, M. Perrault? Vous allez remarquer que ces derniers temps, les hôpitaux de référence ne sont pas dotés de moyens logistiques, de moyens qui peuvent le permettre pour que les agents puissent bien travailler dans toute sincérité et dans l'honnêteté. Vous allez remarquer que les gens préfèrent maintenant aller dans les différents centres de santé privés que plutôt dans les hôpitaux généraux de référence.
C'est
pas pour laquelle vous allez voir, M. Pierrot. Moi, je suis venu vers 10 fois, je critique même, essayer d'améliorer, d'échanger aussi cette appellation. l'hôpital général des références. Quelle est la référence que nous trouvons? Aucune référence, pourquoi? Parce que vous allez remarquer que si vous parvenez à être interné là-bas, vous êtes en tout cas délaissé. Il commence maintenant à choisir, vous allez voir, il faut être frère d'un médecin, n'est-ce pas, frère d'un infirmier. Vous savez pourquoi ils ont maintenant ils commencent à se baser sur des petits sous, des malades. Donc, un patient n'a pas de moyens, il sera délaissé, personne ne va se
soucier de lui.
Permettez-moi que je puisse achever mon idée. Si
oui, je voulais juste vous demander, parce que vous avez dit, vous avez voulu palper du doigt la réalité, vous êtes parti dans un hôpital, ce qui veut dire que vous intervenez en direct dans un hôpital quelque part à Likassi, c'est ça?
Oui, bien sûr, au niveau de l'hôpital général de référence d'Akko de Likassi.
Voilà, c'est pour cela. C'est ce que je voudrais savoir. À l'hôpital général d'Akko de Likassi, au lieu de parler de la généralité, le problème que vous avez vu aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes là, quelles sont les difficultés que vous avez vues aujourd'hui dans cet hôpital?
Premièrement, il manque au niveau du morgue, il y a un fonctionnement terrible. C'est-à-dire que nous parlons même à voir nos cadavres qui sont morts, que nous les déposons dans un état critique. Il n'y a pas moyen, je ne sais pas, il manque, ils disent qu'ils ont les problèmes de la salle de biochimie et autres. Vous allez remarquer dans les différentes maternités, dans la salle de maternité. Les mamans parviennent à être prises en charge par les organisations non gouvernementales de développement. Bon, chez les hôpitaux, bon, je prends mon exemple, les cas qu'on fait de l'hôpital général de Dakou. Bon, cet hôpital bénéficie aussi quelque chose de la part des ONG. Il y a même des grands messieurs qui se donnent le luxe, qui se lancent dans les affaires sociales, qui parviennent à les aider. Mais ils se livrent aussi au détournement. Là, je les parle tout haut. Que vous puissiez les comprendre, parce que je me présente comme aussi un ambassadeur de la population licacienne. Il y a trop d'histoires que vous n'allez pas tolérer sur place, parce que vous êtes de loin là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que je viens de palper la réalité.
Voilà.
Même les infirmiers, les personnels soignants ne sont pas d'accord.
Merci.
Ils sont en train d'accuser d'autres gens.
Ok, Kiombamba, maintenant, pour terminer avec vous, parce qu'il y a beaucoup de lutteurs en ligne, proposez alors dans 20 secondes ce que vous voulez pour que cela puisse se faire. Ce qu'il faut faire pour améliorer rapidement.
Voilà, nous avons toujours eu le principe, les hétéros, de dire que non, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Vous savez pourquoi les médecins, les autres infirmiers, les personnels soignants se servent de l'hôtel, du restaurant aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien payés. Nous voulons que l'État congolais puisse voir d'abord comment améliorer les conditions de vie. Les personnels soignants qui ne puissent pas détourner, c'est dérober du serment d'Hippocrate et du serment de
Kiombamba. Voilà, merci beaucoup Kiombamba. Vous proposez l'amélioration des conditions de vie de travailleurs à Likassi, à l'hôpital d'Akko. Ange, vous êtes en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour. Ange, vous êtes en ligne. Bonjour. Là, on a des problèmes avec Ange sur sa ligne, on pourra le récupérer. Alors, docteur Jean-Baptiste Ange, on rentre à vous, parce que dans votre propos, et vous avez donné aussi de suivre ce que l'auditeur dit, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, si on peut parler du terme prise en otage, le système de santé, le fonctionnement des hôpitaux, des zones de santé, tout aujourd'hui reçoit un appui extérieur. Est-ce qu'on pense qu'avec cet appui extérieur, il y a accès, il y a carrément, il y a MSH, il y a MSF, IRC, UNICEF, presque dans beaucoup d'hôpitaux, il y a cet appui extérieur. Est-ce que quand on va continuer avec cet appui extérieur, faudrait-il vraiment, est-ce qu'on aura le temps vraiment de penser à développer une politique autonome de gestion de tous ces hôpitaux, aussi longtemps que nous avons tous ces appuis extérieurs?
Mais non, on ne peut pas fonder le développement sur l'assistance extérieure, et particulièrement en commune de santé. Il faut quand même rappeler que à l'époque du Congo belge, jusqu'au moment où nous sommes arrivés, c'est la colonie qui prenait en charge toute la couverture, tout le système médical. La Belgique n'aidait pas. C'est le Congo lui-même, avec les ressources produites sur l'État, qui consacrait 12% de son budget pour le service de la santé publique. Mais aujourd'hui, chez nous, la santé, c'est devenu, les gens, tantôt c'est les dons, on voit tel bas, tel les dons. Mais vous, est-ce que vous connaissez un seul pays développé dont le système de santé est performant, où on voit des gens, des notables, des hommes d'affaires faire des dons, des médicaments, des choses comme ça? Ça n'existe pas. Donc, tous ces systèmes dissimulent en fait une faillite globale qui se caractérise par l'absence ou le manque de volonté politique de mettre les moyens qu'il faut pour que le système de santé fonctionne. Les dons, d'ailleurs, vous dites vous-même, les gens viennent même dans le cadre d'une assistance, c'est souvent pour une période donnée. Ils viennent pour un contrat de 2 ans, 5 ans, 3 ans, mais dès que le contrat est terminé, ils vont ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le Congo qui a besoin de l'assistance extérieure. Donc, personnellement, je ne suis pas étonné de ce qu'on m'a décrit à l'Ukassi. Et je pense qu'en Bandaka, c'est la même chose, ici à Kinshasa, c'est la même chose, ça s'explique, ce n'est pas très différent. Et cette situation-là, elle est anormale.
Voilà. Je crois maintenant que Ange est en ligne, hein, si possible. Ange, vous êtes maintenant en ligne, bonjour. Ange, vous êtes en ligne.
Ange, oui, vous... bonjour. Bonjour, Béro et la Mégie.
Voilà.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio, particulièrement chez des Goma.
Merci. Vous êtes en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Nous parlons de fonctionnement des hôpitaux généraux de référence. Parlez-nous un peu, hein, comment les hôpitaux de Bandaka fonctionnent là où vous êtes.
Béro et la Mégie, dès que vous arrivez, vous accédez dans la concession de l'hôpital général de Bandaka. Vous serez accueilli par une mauvaise odeur qui risque même de vous pouvez même vomir dès que vous arrivez dans l'hôpital de Bandaka. Tel est le cas dans tous les pavillons de cet hôpital. Si vous sillonnez dans les différentes chambres de l'hôpital, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matelas. Et moi, j'ai d'ailleurs un pote que sa grande sœur a été opérée dans cet hôpital. Après avoir subi l'opération chirurgicale, il faudrait qu'on puisse l'interner dans une chambre. Et arrivé dans cette chambre, il n'y avait pas de lit. Et même l'état de cette chambre, on ne pouvait plus supporter garder une patient dans cet état. Et on a dû même payer les gens qui appréciennent les différentes chambres pour chercher une bonne chambre pour garder notre sœur. Et c'est comme ça que c'est passé.
Voilà.
Dans les hôpitaux, il n'y a pas aussi des médicaments. Il y a une ONG, donc il y a plusieurs ONG qui aident aussi les hôpitaux, qui donnent aussi des médicaments à les différents hôpitaux de la place, quelques parcs. Ouais. Mais ce que nous regrettons, le médicament qu'on donne, c'est les médecins qui pouvaient garder ces médicaments, qui pouvaient, comment dirais-je, gérer ces médicaments, il ne s'attend pas de tous ces médicaments, il s'en fait un professeur privé. C'est ça, donc les gens, ici à l'hôpital général de Mandaka, les gens sont traités d'une manière anachronique pour moi. Donc là, la même état de l'hôpital, l'état de lieu de l'hôpital général de la ville de Mandaka.
Voilà, nous avons ensemble, on a vu que c'est la situation telle que vous la décrivez, c'est pas vraiment intéressant. Mais du moins quand même, parce que vous êtes en Bandaka, on a besoin que les choses marchent, on a besoin que les choses puissent changer. À votre niveau, si aujourd'hui je vous ai demandé de donner une proposition, Ange, permettre ainsi que la situation s'améliore et qu'on puisse avancer, par où faut-il commencer et par quoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière brève?
Il faut commencer par la réhabilitation des différents de cet hôpital. Et de payer aussi, de mieux payer aussi le personnel de cet hôpital régulièrement. Et ça, c'est que j'ai comme suggestion.
Voilà, merci Ange. On va en province orientale. À Bounia, c'est David qui est en ligne. David, bonjour.
Oui, bonjour à Radio Kati.
On vous écoute. Est-ce que vous avez fait un tour à l'hôpital général de référence des Bounia et les autres hôpitaux qui sont dans le secteur où vous vivez?
Oui, l'hôpital général de référence de Bounia à soi est très bien réceptionné. Il y a quand même, au fond, quand même, c'est un endroit quand même très bien. Mais ce que nous déplorons ici, c'est le problème de caractère des médicaments. Lorsque, par exemple, il y a un malade qui se présente à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, il faut qu'on puisse aller chercher des médicaments, je ne sais pas, au niveau de pharmacie, au niveau du magasin, pour venir avec ça, à toi, c'est très grave. Et il y a aussi le problème de paiement et de salaire pour le personnel. Ça pose vraiment un grand problème.
Voilà, merci David. À Bounia, vous dites que l'hôpital est bien réceptionné. L'état des lieux, ça va, mais le problème, c'est qu'il faut l'approvisionnement en médicaments et aussi de prendre en charge le personnel qui travaille dans cet hôpital. Vous aussi, vous êtes en province, vous êtes quelque part, vous voulez témoigner, envoyez-nous votre réaction à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Docteur Jean-Baptiste Son, je vous avais suivi les auditeurs, mais l'état des lieux, si nous allons nous en tenir à ça, on va se rendre compte, comme vous l'avez dit, que partout les problèmes sont presque les mêmes. Mais s'il faudrait alors échelonner les étapes d'intervention pour améliorer les secteurs et renforcer ces hôpitaux, par où faudrait-il commencer aujourd'hui?
Oui, c'est ça, vous dites effectivement exact, dans ce sens que les ressources étant modestes, il est très difficile d'embrasser tous les problèmes à la fois. Alors, pour cela, moi, personnellement, lorsque j'avais été au gouvernement, moi, j'avais estimé que s'il faut réhabiliter tant de quelque chose, il vaut mieux prendre globalement toute une zone de santé. C'est-à-dire que vous prenez la réhabilitation physique des centres de santé et des hôpitaux de référence, de même qu'une réhabilitation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, si vous réparez un hôpital, vous mettez des lignes, ces lignes, il faut les nettoyer. Donc, il faut sur le plan fonctionnel, il faut qu'il y ait des produits pour traiter les locaux, il faut nettoyer chaque jour, il faut le personnel doit être payé, les médicaments doivent naturellement se trouver dans l'hôpital, le personnel doit être correctement payé, de manière à ce que, une fois que la zone de santé est correctement fonctionnelle, bon, elle démarre. Mais alors, à ce moment-là, effectivement, et quand on a les possibilités de prendre toutes les zones de santé, on a planifié, à peu près, un certain nombre de zones de santé, en tout cas, par an, on les prend dans chaque province, on prend le même pourcentage, de manière à ce qu'après un certain temps, toutes les zones de santé puissent être réalisées. Parce que il serait difficile dans une zone de santé de n'envisager, par exemple, que de s'occuper de l'hôpital de référence. Or, la référence, comme s'est posé la question, en quoi est-ce que l'hôpital est de référence? C'est parce que, à partir du moment où, dans les centres de santé, ils sont dépassés par le problème, eh bien, eux le réfèrent à l'hôpital de référence qui est censé prendre ce problème en charge. Or, pour que l'hôpital soit de référence, il doit d'abord avoir des centres de santé périphériques qui fonctionnent, mais même ça aussi, lui-même, il doit être capable de prendre en charge les personnes qui sont référées justement par les centres de santé. Donc, il faut une fonctionnalité globale de tout le centre, toute la zone de santé. Et c'est comme ça qu'on est, au lieu de les faire toutes à la fois, on les fait progressivement.
Voilà, on pourra continuer, mais en attendant, il y a André qui est à Fizi, dans la province du Sud Kivu, et docteur Albert Bopé qui nous appelle de Mouchenio, Kassai Occidental. On vous avait dit qu'on l'aura dans cette émission parce qu'il est aussi concerné par l'hôpital général de référence de Mouchenio, mais lui, il est médecin sur des zones de santé de Mouchenio. La grande difficulté évoquée, docteur Jean-Baptiste Songy, c'est les problèmes de l'appui de partenaires. Mais que faudrait-il faire pour préparer la transition, parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup d'hôpitaux, quand les partenaires extérieurs se retirent, les difficultés reviennent. Alors, on a un problème de la définition de la politique de transition entre l'appui des partenaires extérieurs et le fonctionnement de la structure sans appui des partenaires extérieurs.
Mais je pense que l'État congolais doit d'abord prendre le problème de la santé au sérieux et non pas laisser la vaccination des enfants, laisser le fonctionnement des hôpitaux à des étrangers. Et ça, c'est une option fondamentale. Et cette option se traduit justement à travers le budget qu'on affecte à ce problème-là. Quand vous avez dit que la colonisation consacrait 12% de son budget, mais quand vous regardez aujourd'hui le budget, comment ils arrivaient là-bas, écoutez, on avait à peine 1%, 0,5%, 1%, et puis maintenant on fait un certain effort, il y a 4%, mais c'est insuffisant, c'est tout à fait insuffisant. Le budget pour une population aussi importante doit être de l'ordre au minimum de 10%, mais évidemment dans ce contexte de 10% où la production, même le PIB, stagne, c'est insuffisant. Donc il y a une combinaison en fait, d'abord une politique économique sérieuse qui doit accroître la production de manière à ce que ces richesses que le Congolais produise puisse leur être retourné sous forme de dotation budgétaire ou dans la ville de santé.
André, vous êtes en ligne, vous êtes assis dans la province du Sud Kivu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez...
André, c'est André, je suis à Kivu.
André,
je voudrais intervenir sur ce débat. Et ici, chez nous, nous avons un seul hôpital général des références ici à Kivu. Mais pendant beaucoup, après longtemps de guerre, l'hôpital reste toujours oublié par l'État, ce qui est chose drôle. Et grâce au fonds collecté par les gens personnels et aussi par les intervenants sanitaires, je veux dire les ONG, l'MPS et l'IMC, on dit peut-être que les ONG ici à Kivu, peut-être qu'on pourra réduire des mères de personnes par jour. Ce qui est drôle. Ce que aussi je pourrais contribuer comme idée, je déclare à la Rue Capu de ne pas inviter le ministre de la santé publique. Il est resté pourquoi voilà,
André, oui,
les hôpitaux, généraux restent oubliés.
Ah, André, on a eu le en début de cette émission, on a eu le ministre de la Santé qui, malheureusement, il est occupé dans une conférence à l'extérieur du pays. On l'a eu en début d'émission. Sinon, s'il était disponible, il serait sur les antennes hein, pour répondre aux préoccupations des auditeurs. Et terminé maintenant, on vous écoute, André.
Comme proposition, je propose ceci. C'est le tafond directement, d'abord, parce que je ne sais pas dans quel état le gouvernement congolais est capable. On dira toujours le problème des moyens. Alors, la société, dans le cas de tel problème, il y a toujours le sujet des moyens. Même le matériel personnel, il y a toujours le sujet des moyens. Je proposerais que l'État d'abord songe au personnel soignant. Et puis, aujourd'hui, c'est ce sont deux qui sont ici dans notre pays en général. Comme le contrat, ils vont partir chez elles. Et quel est le sens de l'expérience?
Voilà, André, votre ligne téléphonique semble se détériorer vers la fin de votre intervention. Merci quand même. Nous avons au Kassai occidental, docteur Albert Bopé, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre-Yves Méjean.
Au début, on a commencé cette émission avec l'exemple de la difficulté que traverse l'hôpital général de référence de Mouchénier, provoqué aussi par le fait que la zone de santé n'a pas continué à recevoir d'appui. Ces difficultés que vous rencontrez dans cet hôpital, si vous pouvez les décrire à nos auditeurs d'une manière brève, sont de quel ordre, docteur?
Oui, merci beaucoup. La zone de santé de Mouchénier, comme vous l'avez dit, traverse des moments très difficiles. C'est depuis l'année 2006, depuis le départ de Caritas Secours International, qui était venu en aide d'urgence à la population sinistrée de la zone santé de Mouchengue, après la guerre de la FDL qui a opposé les Rwandais avec la FDL à Lodi. Donc, depuis ce temps-là, la zone de santé, juste après le départ de Caritas Secours International, la zone de santé n'a pas eu de subsides. Qu'à l'heure actuelle, nous notons un faible taux d'utilisation des services curatifs. Donc, au mauvais état d'abord des infrastructures sanitaires, et en plus, il y a une utilisation éco élevée de quelques médicaments qui se trouvent dans les officines pharmaceutiques qui ne répondent même pas aux normes. Et en plus de cela, il faut aussi noter, M. Ferrer, mais l'insuffisance des personnels qualifiés et des matériels de soins. En plus de cela, il y a la faible motivation du personnel. Bon, la zone de santé de Mouchengue compte énormément de personnel, mais qui sont non qualifiés, et en plus de cela, il y a beaucoup de nouvelles unités qui ne sont pas payées.
Et ces difficultés, docteur, si on peut les mesurer par rapport aux conséquences directes sur la population, les types de maladies, le nombre des morts, les problèmes au niveau de la population, comment vous les évaluez?
Oui, mais avec cette situation, vous vous rendez compte que l'hôpital général de référence est une structure de référence. Aujourd'hui, cette structure ne répond pas de référence. Pourquoi? Parce que la structure elle-même ne répond pas aux normes. Tant que compte, on peut référer un malade à l'hôpital général de référence où il manque même de paracétamol, il manque même une seringue. Et ce malade ici doit aller encore au niveau des villages ou des centres de santé pour pouvoir rechercher ces petits comprimés. Cette situation ne peut pas quand même donner des soins de qualité à la population. Donc la conséquence maintenant, c'est que nous avons une un peu élevé d'abord d'accouchement à domicile. Pourquoi? Parce que les femmes ne peuvent pas venir dans des maternités ou à la maternité de l'HGF pour se faire accoucher. Bon, de deux aussi, il y a un taux très élevé, pardon, de tannotes néonatales. Donc au niveau de la cité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de suffisances de santé qui prennent en charge des malades.
Le docteur Albert, mais ça c'est un tableau très sérieux depuis 2006 et jusqu'à 2010. Est-ce que vous avez quand même eu à mener des démarches? Il y a le ministère central national de la santé, il y a le ministère provincial de la santé. Est-ce que à tous ces deux échelons, vous avez déjà eu quand même une réponse par rapport à ces problèmes? Il est considéré vraiment comme un problème très urgent, tel que vous le décrivez maintenant.
Oui, M. Pierrot, je pense que nous avons notre échelon. C'est la province. Nous avons les médecins spécialistes provinciaux qui sont informés de cette situation. Et du jour au jour, chaque mois, nous devons envoyer des rapports et ces rapports ici parlent toujours. Donc nous attendons encore la réponse. C'est pour ça que nous lançons ce cri d'alarme.
Allez-y, terminez par là, docteur.
Oui. Moi, je pense que ce que nous pouvons demander maintenant, je pense qu'il y a déjà des gens qui nous écoutent en ligne, et les médecins préfèrent être suffisamment informés. Maintenant, nous lançons ce cri d'alarme au niveau d'abord de nos autorités politiques administratives, d'abord de la province, ou au niveau des autorités politiques administratives qui sont au niveau du gouvernement central. Donc, qui nous viennent en aide, pourquoi? Parce que ici, nous risquons d'arriver au pire. La zone de santé qui n'est pas appuyée. Comment voudriez-vous que cette zone de santé puisse quand même donner des soins de qualité à la population? Donc, c'est juste des solutions que nous pouvons trouver ici. Donc, pouvoir approvisionner toutes les formations sanitaires en médicaments et subventionner les soins. Donc, et de deux aussi, il faut recruter un personnel qualifié et motiver aussi le personnel qui teste. Donc, tout ce que nous pouvons espérer des partenaires, mais les partenaires, ils viennent pour un temps. Mmh. Notre parent permanent, c'est le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de pouvoir mentionner les soins.
Voilà. Merci, docteur Albert Popé. Je rappelle que vous êtes le médecin chef des soins de santé de Mouchenio au Cap-Occidental. Vous avez lancé là vraiment un cri d'alarme. La situation, elle est vraiment triste, telle que vous la décrivez. Je pense que les autres auditeurs suivent aussi et les autres partenaires qui écoutent Radio Capi en ces moments. Nous vous disons merci d'être intervenu. On reste dans le Cap-Occidental à Kananga. Albert, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, c'est Albert Kanga, je vous appelle à partir de Kananga, je suis content de l'émission.
Mm-hmm.
Je viens de suivre à main à l'âge les réponses qu'a donné le docteur Albert, le médecin chef des gens de Mushenge.
Mm-hmm.
Nous nous sommes contents de cela, mais il y a un problème que nous devons relever.
Mm-hmm.
Ce n'est pas au médecin chef des gens de commencer à faire des démarches, faire des faits n'importe quoi, mais c'est un problème qui concerne notre État. Il y a l'empiètement structurel dans les systèmes médicaux. Du fait que l'État s'est détourné de sa propre mission, il devait assigner. Mais puisque, dans un État bien ordonné, bien planifié, ce sont les autorités politico-administratives qui devraient normalement assurer la protection des hôpitaux. Et non plus à un médecin chef de zone de commencer à mener des démarches. Lui devrait normalement se placer dans des conditions telles que tous les instruments
sont à ta disposition. Okay.
Un personnel bien qualifié. Mais actuellement, ce que nous remarquons, c'est quoi, M. Pierrot? Il y a manque de la déontologie médicale, d'abord, chez le médecin. Il y a manque de la déontologie médicale. Du fait qu'ils ont prêté serment pour servir le patient.
Mmh.
Mais, à mon humble avis, personnellement, j'ai été malade. Nous arrivons dans un hôpital de référence. Mais ces gens-là vous obligent d'abord de moyens de suivre le patient. Et laisser le patient tomber, pas qu'il tombe. Il y a encore un problème d'amortissement d'instruments médicaux.
Mmh.
Qui jusqu'à présent ne sont pas remplacés.
Voilà.
C'est un problème que nous sommes en train de décrier dans nos hôpitaux de référence.
Ok, alors.
Des spécialistes, des médecins. Donc, actuellement, en RDC, je ne sais pas, nos universités produisent des médecins. Il ne reste que des généralistes, ou bien ils ont des ambitions de se spécialiser.
Voilà, donc, Albert, si je peux vous.
D'assurer la protection intégrale dans tous les hôpitaux, et d'avoir une mainmise de la gestion, puisque la mission qu'a un État, c'est de satisfaire l'intérêt de la communauté, de la nation. Et actuellement, notre État est devenu démissionnaire. Qu'est-ce que nous pouvons dire actuellement?
Voilà.
Qu'est-ce que c'est la charge qu'on pique? Moi, M. Pierrot, vous pouvez parler, monsieur.
Voilà, on vous a suivi, Albert, parce qu'il y a aussi Léon qui nous appelle de Kindou, et on va aussi donner la parole à notre invité, Dr Jean-Baptiste Sanju. Si on vous a suivi, Albert, c'est très bien. Vous avez terminé par interpeller l'État. Votre souci à vous, ce n'est pas que le médecin se plaigne sur les antennes, mais que l'État prenne la disposition pour mettre à la disposition des médecins tout ce qu'ils peuvent avoir pour accomplir leur travail exactement. Merci, vous êtes à Kanango Kassai Occidental. On va à Kindou Manima. Léon, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Lamy.
Vous avez suivi les uns et les autres, Léon. Je crois que la situation des hôpitaux généraux, si on voudrait en faire un rapport, tous les auditeurs pourraient vraiment dire de la même manière. Mais aujourd'hui, à Kindou, quel que soit tout ce que vous connaissez comme problème dans votre hôpital, dans votre milieu, quelles sont vos propositions pour que la situation puisse s'améliorer en dehors de tout ce que les autres ont déjà proposé, ce que l'État devrait en principe faire?
Bon, ce qu'il faut reconnaître, donc pour en venir à ce que notre invité avait dit, et que le tableau est presque le même, M. Pierrot. Donc, les difficultés sont presque les mêmes. Je ne peux plus y revenir là-dessus. Donc, nous connaissons même ici à Kindou des ruptures de médicaments. Nous avons des problèmes d'absence d'eau, de manque d'eau, des conditions hygiéniques déficitaires à l'hôpital. Vraiment, le tableau est tellement sombre, tellement sombre. Ici chez nous, bon, il y a quand même une ONG internationale, Merlin, qui essaie de faire quand même quelques efforts, surtout sur l'aspect médicaments, et qui essaie aussi de motiver le personnel, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Et s'il faut laisser toute la charge amené à cet objet, c'est vraiment beaucoup de mal. Alors, ce que moi je voulais peut-être surtout m'apesantir, c'est dans la proposition de solutions, des voies de solutions. C'est là que je vais, en tout cas.
Allez-y rapidement, Léon proposait, donnez vos propositions alors rapidement.
Ok. Bon, la première proposition, c'est de revoir un peu l'organisation de nos hôpitaux généraux de référence, M. Théo. Puisque ce que moi j'ai remarqué est que généralement les médecins ne sont pas bons pour la gestion. Donc cette appellation-là, c'est le directeur de l'hôpital général, c'est quelque chose qui, à mon avis, a déjà prouvé ses limites. Donc, puisque quand vous voyez la position de médecin à l'université, il passe beaucoup de temps à apprendre le corps humain, le fonctionnement du corps humain à l'état malade, à l'état normal. Donc, ça prend beaucoup de temps et qui n'ont pas vraiment de notion de gestion. Puisque l'hôpital aussi génère des recettes. Alors, pourquoi ne pas confier la direction des hôpitaux à des administrateurs et gestionnaires qui ont fait tout au cours de leur formation la gestion et l'organisation des hôpitaux? Ça, c'est vraiment ma proposition.
Mm-hmm.
Je préfère que les médecins puissent beaucoup plus se concentrer
à soins
à côté des malades et laisser la direction. Puisque les hôpitaux font aussi des recettes, ça aussi, nous ne devons pas l'oublier. Mais vous verrez des médecins qui n'ont même pas de connaissances de tout, de comptabilité, de notions élémentaires de comptabilité. Bon, ça, c'est pas leur faute, mais c'est quand même quelque chose que moi, je préfère qu'on puisse corriger.
Merci.
Bon, je voulais aussi demander à nos responsables d'avoir un peu plus de volonté et de parler beaucoup, parler pour ne rien faire. Vous verrez quelqu'un qui amène une tonne de médicaments et qui appelle la presse, fait beaucoup de tapages, alors qu'en réalité, lorsqu'ils ont accepté de diriger, c'est que lorsqu'ils sont venus ici chercher les voies pour qu'on les élise, en fait, ils ont aussi accepté de servir. Mais vous verrez l'homme Jean-Mélé là, dont j'ai cité à l'introduction là de mon propos. C'est une ONG qui fait beaucoup de choses, qui amène, parfois je me souviens, une fois j'étais du passage, qui avait amené plus de 30 tonnes de médicaments qu'ils avaient distribués
dans
la zone de santé.
Merci Léon, merci beaucoup pour cette proposition. On a suivi, vous avez quand même évoqué l'appui qui est l'ONG Merlin donne à l'hôpital. Merci beaucoup. On termine avec Espoir, qui est à Kiliba, à Ouvira, au sud qui vous, et on va revenir à notre invité. Espoir, vous êtes en ligne, bonjour.
Et bonjour, M. Pierrot.
Espoir, vous avez suivi, beaucoup de gens ont dressé les tableaux peu réluisants des hôpitaux généraux de référence, mais là, nous donnons déjà des propositions concrètes pour améliorer les services, parce que cela vous touche directement. Qu'est-ce que vous proposez, Espoir?
Et je commence d'abord à saluer tous les auditeurs de la radio Capi. Ce qui fait que les gens, ou bien ce qui fait que les malades fuient les hôpitaux généraux, c'est le problème d'argent. Vous voyez un malade qui se pointe à l'hôpital, mais avant d'être touché par un médecin, il lui faudra d'abord payer l'argent. Or, si ce dernier ne travaille pas, où est-ce qu'il va trouver cet argent pour payer? Donc, le problème n'est pas de médecin, mais le problème, c'est le manque de la fonction. Les gens ne travaillent pas. Quand ils arrivent à l'hôpital, on les demande l'argent sur place. Et si le médecin les touche, il y a les gens qui restent dans l'hôpital. Ils sont là 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qu'on va les faire? Le problème n'est pas des hôpitaux généraux, mais c'est le problème du gouvernement. Il n'y a pas d'emploi en RDC.
Voilà. Pour vous, vous pensez que si les gens sont supportés, on augmente les pouvoirs d'achat, ils peuvent aussi payer les soins à l'hôpital, et l'hôpital peut fonctionner. Merci, Espoir. Vous êtes parti dans la province du Sud Kivu.
Parole aux auditeurs.
Docteur Jean-Baptiste Sanjou, on revient à vous. Vous venez de suivre les tableaux dressés par le docteur Albert de Mouchénier. La situation est vraiment catastrophique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il moyen de développer une politique dans la gestion locale, les ressources locales qu'on peut avoir en attendant les subsides, en attendant tout ce qu'il peut avoir comme appui, mais est-ce qu'il y a moyen de renforcer aussi la gestion locale au niveau des structures de médicales, comme venait de l'évoquer Léon, qui peuvent aussi permettre aux hôpitaux de fonctionner sur base des recettes locales en attendant bien sûr les subsides? Est-ce que c'est possible?
Ah, bien entendu, la gestion de toutes les façons, que vous ayez des subsides ou pas, la gestion est un élément fondamental. Que ce soit la gestion de l'État dans sa globalité, comme la gestion de la micro-gestion, comme la gestion de l'hôpital, des zones de santé, ça c'est tout à fait bien. Mais le seul problème là, il est subsidiaire, parce que les revenus, vous savez, avec le taux de pauvreté que le Congolais affiche, il est impossible que le Congolais, par ses revenus propres, puisse prendre les soins de santé sérieusement en charge. Ça, il faut pas rêver. Donc moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Même à l'époque, pour les gens, d'ailleurs, lorsque l'État consacrait 12%, les gens payaient symboliquement les soins, mais l'essentiel des soins, par exemple, tout ce qui est approvisionnement en médicaments, tout ce qui est salaire du personnel, tout ce qui est entretien des bâtiments, c'est l'État qui le prenait, ce ne sont pas les recettes générées par ceux des gens donnés qui contribuent au fonctionnement. Donc, le problème de fonctionnement, il n'est rien, mais le problème, je pense, il est surtout en amont. Et un problème important que va soulever le médecin chez Bézard, c'est le problème, effectivement, de la formation. Aujourd'hui, quand vous regardez tout le personnel de santé, que ce soit depuis le médecin jusqu'au personnel paramédical, eh bien, le niveau est en train de baisser, mais ça, c'est encore un problème de l'enseignement du système éducatif dans son ensemble. Et puis, je vais revenir sur, parce que beaucoup de gens font des confusions. On parle, voilà, le médecin, on fait des paiements d'Hippocrate.
D'Hippocrate, qui a compliqué le travail.
Mais vous savez qu'en Europe, Hippocrate est un grec. Vous allez en Europe, aujourd'hui, vous allez dans un hôpital. Si vous n'êtes pas capable de montrer comment vous allez payer, personne ne s'occupera de vous. Mais par contre, on s'occupe des jeunes en urgence sans moyens, mais qui n'ont pas les moyens. Pourquoi? Parce que d'abord, là-bas chez eux, il y a tout un système, toute une organisation qui fait que d'abord, les médicaments ne manquent jamais. Parce qu'un médecin, même ayant fait un serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Hippocrate ne lui dit pas que vous devez soigner les gens avec vos doigts. Le serment d'Hippocrate, au contraire d'ailleurs, interdit à ce que le médecin, s'il n'est pas mis dans des conditions convenables de travail, puisse travailler. Il devient refusé en fait de travail. Mmh. Et en Europe, vous avez dit que moi, j'ai vu un ami qui est venu de Louvain, qui a en Belgique, qui a dit j'ai étudié. Lorsqu'il est venu voir un ami sur l'hôpital de l'Allemagne, il a dit moi, je ne peux pas travailler, je refuse de travailler parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, je pense que, qu'on ne confonde pas, parce que l'hôpital ne peut pas fonctionner sans argent. Et croire qu'un médecin, quand il est mené, il peut faire des miracles, c'est une illusion. C'est pour cela qu'à mon avis, il ne faut pas incriminer le personnel des amis, si je ne suis pas nécessairement policier, mais c'est tout un système qui a été mis en place, c'est-à-dire que chacun essaie de sauver ce qu'il veut, mais le système est globalement, c'est l'État qui doit reprendre sérieusement les choses en main, de manière à ce que, justement, qu'on ne laisse pas des initiatives disparates, le fait de s'occuper de la prise en charge des risques de mal.
Mais docteur, on voit aussi, et cela arrive plusieurs fois quand on voit un ministre se rendre par exemple en province, même des fois il arrive aussi que les chefs de l'État fassent des dons dans les hôpitaux pour permettre que les hôpitaux aient des médicaments. Mais si tous ces dons, que ce soit un ministre, que ce soit une autorité politique, que ce soit le chef de l'État qui peut faire un don à un hôpital, pour la plupart des cas, on se rend compte qu'après ces dons, ce sont des problèmes. Alors là, on se dit qu'il se pose un problème de canalisation au niveau de la politique, l'État, en principe, devait définir pour éviter que ces dons donnés par des autorités politiques qui sont d'ailleurs en fonction puissent être canalisés dans une politique globale. Et comme ça, ça peut permettre à ce que le système fonctionne plutôt que d'y aller avec ces interventions disparates. Et en fin de tout, on revient toujours à la case du départ, on retourne à ses plaintes et la situation va toujours s'empirer. Et là, les conséquences, comme l'a dit le docteur Albert, c'est que les charlatans, les petits centres de santé vont récupérer la situation. Et là, c'est encore plus grave.
Oui, tout à fait d'accord. Mais d'abord, vous verrez très bien que tous les pays, le système médical fonctionne. Vous n'entendrez jamais que le président Barack Obama qui allait faire un don, le président Sarkozy, ou tout ça. Donc, déjà, quand vous apprenez qu'un président de la cité, le ministre fait des dons pour les soins médicaux, dites-vous que ce pays est gravement malade. Parce que le chef de l'État et le ministre de la Santé, leur rôle, c'est d'organiser le système. Et quand un système est organisé, il fonctionne de soi et on n'a pas besoin de faire des dons dans les hôpitaux. On ne verrait jamais le président Barack Obama aller dans un hôpital aux États-Unis faire des dons de médicaments. Ça n'a pas de sens parce que un chef de l'État ministre a dépassé ce stade-là. Donc, chez nous, qu'on soit amené à faire des dons, c'est un symptôme d'un système fondamentalement malade parce que
le chef de l'État, que ce soit le ministre, n'aura jamais des ressources suffisantes pour faire des dons externellement et dans les hôpitaux, dans le système de santé pour les fonctionnaires.
Voilà.
Donc, mais je dis, ne veut pas dire que j'ai incriminé directement le ministre. Je pense que c'est injuste d'accuser, d'incriminer le ministre. Parce que c'est tout le système, globalement, qui doit être repensé. D'ailleurs, vous verrez très bien qu'il n'y a pas de service de santé qui ne fonctionne pas. Et si vous prenez le système de l'éducation, il ne fonctionne pas. Le système, ça fonctionne, c'est plus global. Donc, c'est une vision d'ensemble et nous devons vraiment repenser notre pays globalement, de manière à ce que les problèmes de santé, comme tous les autres, puissent véritablement être pensés de manière réfléchie, de manière rationnelle.
Voilà. Nous allons, au nord, qui vous, c'est précisément à Boutembo, où se trouve Augustin. Augustin, vous êtes en ligne, bonjour. Augustin, voilà, Augustin, on a perdu, hein. On, là on reste dans le secteur, mais de l'autre côté à Bounia, c'est le Tini qui est en ligne. Le Tini, bonjour.
Bonjour, je tiens à dire que c'est le Tini, c'est pas le Tini.
C'est le Tini, hein, voilà, vous êtes à Bounia, province.
C'est
le Tini, voilà.
Alors,
on vous écoute.
Si en fait on pourrait en parler des acteurs des hôpitaux. L'hôpital en fait de référence, je crois bien qu'aujourd'hui, ça n'a plus cette agitation de rappeler l'hôpital de référence. Regardez vers les années 1980, 1960, à l'époque du Zaïre, tout était presque en fait à l'époque des gravements. Et presque si vous arrivez aujourd'hui à l'hôpital des hôpitaux de référence, ce sont des histoires qui datent très longtemps. Alors, il faudrait quand même créer quand même une sorte de réhabilitation totale. Équiper les hôpitaux avec des infrastructures adéquates. Et cela pourrait affecter les hôpitaux des références, puissent avoir un élan et puissent parvenir à prendre soin des populations. Et même aujourd'hui, nous avons nos universités aujourd'hui, j'ai toujours dit qu'ils en souffrent. Nous avons des médecins dont on les présente, je me souviens que les infrastructures référentes récemment, on les a donnés des infrastructures, du matériel, et ils ne savaient pas comment monter, comment travailler avec. C'est tout à fait drôle. On a toujours des médecins qui viennent de Bruxelles, en France, qui sont eux, qui parviennent quand même à travailler avec cela. C'est tout à fait regrettable que le gouvernement n'apprenne plus conscience de cela. Il est hors de question de parler aujourd'hui des États-Unis, comparer la RDC aux États-Unis. C'est tout à fait drôle. Nous avons toujours la grippe et nous comparons à d'autres pays. Alors, nous oublions le vrai problème de notre pays. Le problème de notre pays, il montre qu'il ne faut pas arriver. Parce que l'étoile est dans notre pays. On ne peut pas dire que l'étoile est, par exemple, en France, à parler d'Obama, chez lui, là-bas. Alors que chez nous n'avons plus rien.
Voilà. Le CELI, pour vous demander alors la proposition finale, hein, si le docteur Jean-Baptiste Songe a évoqué, c'est une comparaison pour permettre à ce qu'on comprenne notre système, comment il fonctionne par rapport à d'autres systèmes. De toute façon, on compare les systèmes pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut copier, qui peut marcher dans notre côté. Alors, si vous dites qu'il faut parler de nos propres problèmes, et maintenant, vous, à Bounia, vous avez vu tous ces problèmes que vous avez au niveau de Bounia. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour que les choses puissent marcher? Quand même, ce que vous proposez, c'est pour atteindre ce qui se fait aussi ailleurs.
La proposition est claire et bien nette. C'est question de doter des infrastructures et de former le médecin compétent. C'est à parvenir. Et puis, il ne faudrait pas oublier. Dans un exemple, dans une hôpital aussi grande, aussi grande ville, on ne peut pas mettre quand même des médecins. C'est tout à fait drôle, c'est compétent. Il faut donc qu'on mette des médecins moyennant la population. Pour là, elle a son place pourvu que ça puisse aider tout le monde à avoir les choses comme il se doit. Aujourd'hui, on est en train de quoi? De diviser les gens à l'hôpital. C'est les riches, alors on le met en soins, et c'est le médecin qui vient le voir. Et l'autre, comme il n'a pas l'argent, ils font des infirmiers classiques. C'est tout à fait concevable dans le cadre de la vie nécessairement de la médecine.
Voilà, merci. Le est terminé par là, oui. Voilà, merci. L'Ostini, vous êtes à Bounia, en province orientale. Je crois maintenant Augustin est en ligne maintenant. Ça va, Augustin? Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot et l'ami. J'allais dire ceci. Je ne vais pas beaucoup parler parce que tout a été déjà dit, donc le bilan est mitigé partout. Même si je peux donner un exemple qui est concret, dans notre hôpital de référence des Tatois, parce que c'était un hôpital qui est référence, qui est de médicaux, donc conventionnés, protestants. Je vous dis, c'est catastrophique, c'est déplorable. Là-bas, quand vous allez, même les gens qui quittent dans les zones de guerre là, c'est vraiment malheureux. Ils sont d'abord dépouillés à tout, mais quand ils viennent encore, qu'ils viennent se faire soigner dans nos hôpitaux ici de référence, il n'y a aucun, je vous dis, aucun aide.
Voilà.
Ils s'espéraient s'abandonner.
Voilà.
Mais j'en ai dit ceci.
Oui,
il y a un problème de l'État congolais. Il faut que l'État reprenne les choses en main, qu'il loue le budget, le bon budget, pour que les choses puissent mieux se dérouler. Tout ce qu'on peut dire, on peut assurer les médecins, les infirmiers, on peut assurer tout le monde, c'est pas l'une des solutions.
Voilà,
la solution, c'est pas les médecins qu'on a dit, qu'on puisse louer des bons budgets, et puis les choses vont aller, vont marcher en bonne et due forme.
Voilà, merci Augustin. Nous prenons le dernier auditeur de cette émission, c'est Dr Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Dr Richard, bonjour. Dr Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot.
Voilà, vous êtes aussi médecin, hein, vous êtes spécialiste en santé publique, vous avez suivi les uns et les autres depuis le début de l'émission, parce que nous vous prenons comme le dernier auditeur pour terminer l'émission et redonner la parole à notre invité pour conclure. Docteur Richard, on vous écoute, que faut-il faire concrètement aujourd'hui pour redresser les choses en ce qui concerne nos hôpitaux, comme on les appelle, hôpitaux généraux de référence.
Ça va?
Docteur Richard, vous êtes en ligne, vous me suivez?
Oui, je suis en ligne, je vous suis. Moi, je voudrais, par rapport au thème d'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a dit, donner un témoignage, le thème. Je suis médecin directeur à l'hôpital général de référence de Lokula. À mon arrivée, j'avais posé le diagnostic sur l'hôpital, et j'avais trouvé que l'hôpital ressemblait à une vache maigre. Donc une vache maigre ne peut donner ni une bonne vision, ni une belle peau. Il fallait maintenant, avec cette vision, développer un programme de restauration de l'hôpital et pourquoi pas de son développement. La restauration consistait à la réhabilitation de tous les services, à la valorisation du personnel parce qu'il fallait apurer les arriérés qu'ils avaient trouvés, et puis à l'équipement de l'hôpital. Après avoir terminé cela, nous nous sommes lancés dans le programme de la construction de l'hôpital. Pourquoi? Parce que il fallait que l'hôpital reponde à 90% aux délibérateurs de la communauté. Ce qui a fait que, à cela, nous avons construit, avec les ressources de l'hôpital, un bâtiment de 14 chambres qui existe à Lokula. Et avec le split supplémentaire, il fallait aussi construire le logis du personnel, etc.
Voilà, docteur Richard.
Il fallait que nous puissions quitter, partir, et souvent, surtout à cause de la démocratisation tribale. Ce qui devait servir à la construction de logis de médecins et d'autres personnels, et aussi à l'extension de l'hôpital, parce qu'il fallait que des bâtiments VIP.
Voilà, docteur Richard, s'il vous plaît.
Le prix a été utilisé pour construire l'ISTEM. Beaucoup là parce que
Richard,
le problème de personnel posé dans cette présentation avec acuité.
Docteur Richard, on termine.
Donc, je pourrais ajouter aussi en disant que mon hôpital ne manquait pas les médicaments essentiels par rapport aux problèmes de la communauté.
Oui, docteur Richard, on comprend ce que vous dites, c'est-à-dire que vous mettez l'accent sur la manière dont le médecin lui-même doit avoir l'initiative de gérer un hôpital pour le rendre plus performant comme vous l'avez fait à Lokula. C'est ça votre souci dans 10 secondes.
Pardon?
Dans 10 secondes, docteur Richard, là on a des problèmes de ligne apparemment, de retour avec docteur Richard, mais nous allons lire un mail de un auditeur qui nous a écrit, c'est Camara Serge, il dit ceci, que le ministère de la Santé, avec ses collaborateurs, les corps soignants et autres, doivent veiller à une formation efficace de ceci et par ricochet gérer les vies humaines avec passion ou vocation, car nous pourrons assister au transfert de la main-d'œuvre à cette matière. Bref, la motivation serait la résultante des résultats escomptés dans ce secteur avec des infrastructures adéquates par les bons soins. Et docteur Jean-Baptiste Songe, vous avez suivi tous les auditeurs, parce que là, nous avons deux minutes juste que nous vous accordons pour, à propos de tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission, faire un commentaire et conclure l'émission de ce jour.
Oui, d'abord, bien sûr, le constat en général qui est le même. Donc, d'abord, les hôpitaux de l'Éternel, mais il faut que les auditeurs sachent aussi que l'organisation médico-sanitaire de notre pays n'est pas fondé sur l'hôpital de référence. L'aspect curatif n'est pas l'aspect prépondérant de notre système de santé. Donc, c'est pour cela que, même s'il est vrai que les gens qui se constituent malades ont tendance à vouloir aller à l'hôpital, le système chez nous, c'est un système d'abord de prévention. Et c'est pour ça que les centres de santé sont des éléments fondamentaux dans le système. Et que l'hôpital de référence n'est que le second niveau dans notre système de santé. Donc, il est vrai que si les gens se focalisent beaucoup sur l'hôpital de référence, parce qu'effectivement, souvent, quand ils ont des problèmes, ils vont à l'hôpital de référence. Mais voilà, le problème le plus important que le pays rencontre dans le monde de la santé ne nécessite pas une référence dans un hôpital de référence. Mmh. Alors, c'est pour ça donc que les investissements que vous devez faire, à mon avis,
pour terminer, oui,
on fait les investissements en amont dans la prévention, dans les réhabilitations fonctionnelles de toutes les zones de santé, c'est un centre de santé.
Merci.
En ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller dans un hôpital de...
Merci. Merci,
donc, docteur Jean-Baptiste Songe. Réhabiliter, à mon avis, tous les systèmes de santé.
Merci. Merci beaucoup, docteur Jean-Baptiste Songe, d'avoir accepté de commenter ces sujets avec nos auditeurs.
Merci bien.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, on ne va pas terminer sans vous dire merci, vous les auditeurs qui avez accepté de participer dans cette émission et ceux qui nous ont suivis chez eux. On va se retrouver demain mardi pour parler cette fois-ci du fonctionnement des administrations publiques à travers le pays. Il s'agit là des districts, territoires, cités, secteurs et autres qui vous gèrent au quotidien, sans oublier les communes pour vous qui résidez en ville. Nous parlons de leurs difficultés, de leur communication avec vous. Par exemple, à Luxembourg, on a des difficultés pour communiquer avec les six territoires de ces districts. Comment ces entités fonctionnent-elles et comment elles vous rendent service sur vous? Réagissez à pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain.
Il est 12h.